Thank you, Josh. It's a pleasure to be here. Good morning, everyone. I will be speaking in French, but the PowerPoint is in English, so everyone is confused. Thank you for the introduction. I am indeed working for UPR Info, which is a Geneva-based organization. And now I will speak French, yes. Donc, je travaille pour UPR Info, qui est une ONG basée à Genève et qui est spécialisée sur l'examen périodique universel. Le but de notre organisation, c'est d'expliquer le mécanisme et de faciliter l'accès des différents acteurs à ce processus. Donc pour ça, nous avons notamment un site internet, une base de données qui contient toutes les recommandations qui ont été faites à l'EPU. Nous organisons des réunions entre ONG et mission permanente avant l'EPU pour discuter de la situation dans les pays, et nous publions des rapports sur la mise en œuvre entre deux examens. Voilà pour notre organisation. Nous sommes basés donc à Genève, près de l'ONU, une petite équipe, et je vous invite à visiter notre site internet, et puis je pense que Joshua pourra partager mes coordonnées avec vous si vous avez des questions sur les PU par la suite. Donc, je vais vous parler tout d'abord du premier cycle, ses forces, ses faiblesses, et puis avec un chapitre spécifique sur la société civile. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais parler un petit peu des enjeux du deuxième cycle, qui a commencé donc l'an dernier. Voilà le premier cycle donc, qui a commencé en 2008 et qui a fini en 2011-2012. Donc le premier cycle. Alors j'aurais bien aimé faire la présentation debout. Malheureusement, j'ai mal aux pieds, donc je serai obligé de m'asseoir. Voilà. Donc on va commencer par les succès de l'EPU. Donc vous êtes tous familiers avec comment l'EPU fonctionne. Hein. Vous avez tous déjà vu, plus ou moins, vous avez eu un rappel, vous avez tous déjà travaillé avec l'EPU par le passé.
Pas tout le monde. Mais hier, on a...
Yes, no. Petite mise à niveau hier. OK. D'accord. Donc pendant ma présentation, j'essaierai un petit peu de rappeler les différentes modalités du processus. Tout d'abord, les succès de l'EPU. Alors, le premier succès de l'EPU, ça a été de mettre les droits de l'homme au centre, un petit peu plus au centre, disons, de ramener les droits de l'homme dans les discussions aux Nations Unies. Les droits de l'homme sont l'un des trois piliers de l'Organisation des Nations Unies, avec la sécurité et avec le développement. Mais ils prennent une part beaucoup moins grande que ces deux autres thèmes au sein des Nations Unies. Et puis notamment, en termes de budget, ils ne représentent que 3% du budget des Nations Unies. Donc l'EPU a permis, par cette discussion sur chacun des États du monde entier, de vraiment dédier une partie importante du travail des Nations Unies sur les droits de l'homme et d'avoir une discussion régulière, puisque l'EPU a lieu trois fois par an, pendant deux semaines, et que 42 pays sont examinés par année. Donc l'EPU a vraiment permis de mettre les droits de l'homme au centre des discussions aux Nations Unies. Également, entre États, comme l'examen d'un pays se fait par les autres États, eh bien les autres États s'interroger, s'inquiéter, se renseigner sur la situation des droits de l'homme dans les autres pays. Donc chaque État vraiment doit maintenant, enfin chaque État est poussé, quand il est examiné lui, à discuter des droits de l'homme, mais aussi les autres États qui font des questions, des recommandations, doivent travailler sur les droits de l'homme pour pouvoir faire des déclarations sur les autres pays. Donc ça a vraiment créé de nombreux dialogues dans les droits de l'homme au niveau international. Puis au niveau national, notamment pour la rédaction du rapport national, qui est l'un des trois documents qui sont préparés pour chaque examen de pays, le gouvernement doit consulter la société civile, et j'y reviendrai plus tard, mais il doit aussi, à travers les ministères, préparer de l'information sur quelle est la situation, et ensuite il doit travailler sur la mise en œuvre encore une fois, avec les différents départements. Et ça, également, au niveau interne, ça crée des discussions sur les droits de l'homme qui n'auraient pas forcément eu lieu auparavant. Et enfin, les ambassades dans les pays, c'est-à-dire si la Norvège va prendre la parole sur la Chine, et ben l'ambassade de Norvège à Pékin va prendre des renseignements sur la situation des droits de l'homme. Alors il y a beaucoup d'États qui maintenant demandent à leurs ambassades, et notamment en Turquie, maintenant ils travaillent, ils sont en train d'ouvrir beaucoup d'ambassades, et ils sont en train de demander à leurs ambassades de faire une analyse de la situation des droits de l'homme dans les pays où ils sont, pour pouvoir ensuite s'en servir pour les PU. Donc ça permet vraiment aussi au niveau national, les ambassades se mettent à regarder la situation des droits de l'homme dans les pays où ils sont beaucoup plus qu'auparavant.